Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Du 15 avril au 15 octobre, l'Agence de l'eau vous consulte sur les orientations d'usage, le document le plus important en matière de gestion des cours d'eau. Chaque mois, SOS Loire Vivante vous informe afin de donner votre avis. Téléchargez le questionnaire sur sosloirevivante.org. Ensemble, prenons soin de l'eau.
Aujourd'hui, nous recevons Jocelyn de l'Espinet, délégué régional de l'Association nationale pour la protection des eaux et des rivières, dite TOS, et membre du directoire eau de FNE, Fédération nationale des associations de protection de l'environnement. Il est également membre du comité de bassin Loire-Bretagne, c'est-à-dire l'organe décisionnel qui élabore le SDAGE. Le SDAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, définit les grandes orientations de la gestion de l'eau et les règles à respecter. Il concrétise nos engagements respectifs pour atteindre les objectifs européens de bon état des eaux. C'est un document très important car il oriente directement les décisions administratives et indirectement nos actes quotidiens qui ont un impact sur l'eau et les rivières. Aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre, chacun d'entre nous est invité à donner son avis sur le SDAGE en cours de révision. Jocelyn de l'Espinet, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de ce qui est prévu dans le nouveau SDAGE Loire-Bretagne au niveau de l'agriculture ?
Si vous voulez, si j'avais à résumer, je dirais... Si on ne touche pas l'agriculture, on ne touche à rien et on n'obtiendra pas, on n'atteindra pas les objectifs qui sont demandés par l'Europe. Déjà, la grosse bagarre a lieu pas tant sur les pesticides et compagnie, mais sur les prélèvements. Alors bon, moi je rappelle des chiffres, hein, qu'en France, il faut quand même qu'on différencie bien ce qui est le prélèvement, c'est-à-dire ce que nous prenons de la ressource, et la consommation, c'est-à-dire ce que nous ne remettons pas dans la ressource, du moins pas à l'endroit où on l'a pris, et ou pas dans la zone où on l'a pris. Alors, le prélèvement brut en énergie, c'est 59% des prélèvements, mais par contre, ça n'est que 3% de la consommation. Ça peut paraître étrange, mais là-dedans, si vous prenez une centrale nucléaire, elle va prendre, mettons, je donne un chiffre, 100 mètres cubes dans la Loire, mettons, mais elle va en rendre 97. L'eau potable, c'est 18% du prélèvement et 24% quand même de la consommation nette. Parce que effectivement, il y a une part d'eau qui disparaît et qui ne revient pas directement au milieu, même traitée ou pas. Alors l'industrie, c'est 12%, mais en consommation nette, c'est 5%. Alors l'agriculture ne prélève que, il faut le dire, 11%. Seulement en consommation nette, c'est 68%. Et 68% répartis sur l'année. En réalité, c'est plus de 80% en été. Donc ce sont des prélèvements colossaux. Et cette eau, peu m'importe moi qu'elle retombe en mer du Nord ou au Kamchatka septentrional, elle ne retombe pas là où on en a besoin et là où elle a été prélevée. Ce qui fait que nos nappes phréatiques baissent régulièrement et y concentrent les polluants. Alors donc ça, c'est la grosse bagarre. Et ce que veulent les agriculteurs à l'heure actuelle, c'est encore plus d'eau. Et donc ils ont inventé cette notion de bassine, cette notion de barrage, de réservoir, de retenue collinaire. Ils cherchent à créer partout avec des financements publics. C'est ça aussi qu'il faut dire. Le financement est public. Ils cherchent partout à créer des retenues collinaires dans lesquelles, a priori, quand vous entendez ça et que vous n'êtes pas trop au courant des problèmes, vous vous dites, ben oui, c'est bien, ils veulent retenir l'eau en hiver pour la consommer en été. A priori, ça paraît complètement logique. Oui, mais si vous retenez l'eau en hiver, vous la prenez à quelqu'un. Vous la prenez à des milieux naturels qui en ont besoin. Vous la prenez à des nappes phréatiques qui ont besoin d'être chargées. Vous la prenez aux rivières, tout bêtement. Vous la prenez à la mer aussi bien qui en a besoin. Et donc, en fait, c'est de la capitalisation. Et il va arriver un moment où tous les gens qui sont à l'amont vont vouloir retenir l'eau pour la vendre à la limite. Je crois qu'on a 440 milliards de mètres cubes par année qui tombent sur le sol. 61% s'évapore. 16% alimentent les cours d'eau et 23% s'infiltrent. Donc ça veut dire que si on capte quelque chose, on va capter quelque chose qui est utile plus bas. Qui est utile ailleurs. Je vous donne un exemple, la gestion des barrages. Moi, je connais très bien une rivière qui s'appelle la Dordogne, et il se trouve que là où je suis, à Argentat, on a un problème de ressources d'eau potable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de crue moyenne. Comme il y a de grands barrages, ils ont écrété toutes les crues moyennes, et il n'y a plus de crue moyenne, d'une part pour faire un petit peu bouger la morphologie du cours d'eau, qui en aurait bien besoin, et puis d'autre part pour recharger les nappes d'accompagnement. Et comme ça ne recharge plus les nappes, et ben on ne peut plus prendre de l'eau potable dedans. Donc ça coûte plus cher à la collectivité.
toujours avec Jocelyn de l'Espinet, membre de FME, TOS et du comité de bassin Loire-Bretagne. Alors, il n'y a aucun objectif de conversion à des pratiques agricoles raisonnées, bio ou en tout cas plus respectueuses de l'environnement dans le projet de SDAJ ?
C'est pas exact. C'est, si vous voulez, le projet de SDAJ implique quand même qu'on développe des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Mais il n'y a aucune. C'est même pas incitatif. C'est un souhait. C'est un vœu pieux.
Il n'y a pas d'objectif vraiment fixé, ni chiffré, ni...
Non. Il y en a un dans le Grenelle. Mais le Grenelle est peu à peu vidé de sa substance, séance après séance. C'est de la com, il y a beaucoup de com.
Quelle est la valeur juridique du Grenelle de l'environnement sur un projet de SDAJ ?
Pour l'instant, aucune.
Alors, le problème majeur, principalement en Bretagne, on en a entendu parler, mais partout en France et sur le bassin de la Loire, c'est également vrai, c'est qu'on est obligé de fermer des captages d'eau potable parce que ça devient plus cher de traiter l'eau complètement contaminée que de chercher un autre et d'abandonner carrément ce captage.
Ben vous avez même pour la Vendée un projet de détourner l'eau de la Loire par des tuyaux pour l'emmener en Vendée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des économies sur l'existant, en faisant justement un autre type de culture, on cherche à avoir une nouvelle ressource. Mais ça aura une fin. Je sais que dans certains secteurs, par exemple, on ferme des captages, mais l'embêtant, c'est que très souvent, on les sort des mesures. C'est-à-dire qu'ils ne font plus partie du réseau de mesure. Ce qui fait qu'on a l'impression que la qualité globale de l'eau s'améliore. Mais c'est simplement parce qu'il y a des points de prélèvement qui ont été fermés. Pas partout. Hein, vous avez des départements, en Val-Loire par exemple, où on les laisse dans le réseau de mesure. Mais parce qu'il y a des gens qui se battent pour ça, ils sont obligés de se battre d'ailleurs. Donc à mon sens, on ne respectera pas les échéances fixées. Je crains que la technique, ce soit de se dire les autres pays non plus, ce qui à mon avis est une erreur, et que donc, c'est pas très grave qu'il y aura des reports, des délais, etc.
Alors, il existe des mesures curatives, finalement, donc des mesures techniques pour capturer les flux de nitrates et des autres polluants. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement ?
Alors, bon, il y en a un quand même qui est passé dans le SDAJ, c'est les bandes enherbées. Ce sont des zones tampons, un petit peu comme vous avez des lagunages pour des stations d'épuration. L'idéal aurait été des bandes de 12 mètres. Parce que tous les calculs, et là ça a été rappelé à nouveau par les ingénieurs de l'agence de l'eau, tous les calculs montrent que l'efficacité maximale c'est à 12 mètres. On les aura à 5. C'est mieux que rien. Disons que ces nitrates vont être consommés, ceux qui n'auront pas percolé. C'est-à-dire ceux qui sont en simple ruissellement, ainsi que le phosphore aussi bien, ils vont arriver dans ces zones tampons. Mais je veux dire, ça c'est du curatif encore. C'est mieux que rien, mais c'est plus près de rien que de mieux. C'est souvent qu'on dit c'est mieux que rien. Bah oui, mais cela.
Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est qu'une culture intermédiaire ?
Alors la culture intermédiaire, c'est entre le moment, par exemple, où vous avez fait votre blé et le moment où vous allez ressemer. Comme il y a un reliquat de nitrate, vous allez faire une culture intermédiaire. Vous allez cultiver quelque chose qui servira pratiquement à rien, encore qu'il y a peut-être des pistes si un jour on peut réellement utiliser la biomasse. Je ne parle pas des agrocarburants, c'est des carburants marrons, mais si on peut réellement un jour utiliser la biomasse, là, les cultures intermédiaires pourraient être intéressantes à beaucoup de points de vue. Seulement, il est à craindre que comme là, le rendement arrivera, à nouveau, on retombera dans les mêmes erreurs. La culture intermédiaire, c'est une culture qui est mise entre la culture qui, au fond, est celle qui a été visée, et puis le fait qu'on ressèmera. Mais entre les deux, il ne faut pas laisser un sol nu.
Pour limiter, donc
Faut limiter le ruissellement, l'érosion, et surtout... mobiliser les nitrates qui sont encore là, le reliquat de nitrates.
Mais alors ces nitrates qui vont être fixés dans les plantes en culture intermédiaire, ils vont rester dans la plante ?
Oui, mais à partir du moment où ils vont rester dans la plante et soit être exportés puisque vous enlevez la plante, soit ils vont être réutilisés, réemployés par la nouvelle culture, la culture qui arrive derrière. Donc ça, c'est pas idiot, parce qu'au fond, vous avez votre intrant qui est en partie déjà là. Par contre, c'est ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que si vous la détruisez par broyage, bon, bah alors ils vous disent que ça pose d'autres problèmes, etc. Mais il y a toujours des problèmes quand il s'agit de bien faire. On a l'impression que je suis très braqué contre les agriculteurs. Pas du tout. Je suis braqué contre un système agricole qui est en train, d'une part, de mettre en esclavage un certain nombre d'agriculteurs. Et quand je dis en esclavage, je pèse mes mots. pas seulement en France, hein, mais partout dans le monde. Et puis surtout parce que, au fond, sauf pendant une courte période, ça ne les enrichit pas, hein.
C'était Jocelyn de Lespinet, membre du comité de bassin Loire-Bretagne, de la fédération FNE et de l'association TOS.
Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Du 15 avril au 15 octobre, l'Agence de l'eau vous consulte sur les orientations du SDAGE, le document le plus important en matière de gestion des cours d'eau. Chaque mois, SOS Loire Vivante vous informe afin de donner votre avis. Téléchargez le questionnaire sur sosloirevivante.org. Ensemble, prenons soin de l'eau.